Missio, vous avez parlé d'exploitation de sel en France. Et je voudrais juste expliquer un peu, parce que si vous voulez, quand on parle de néodyme ou de transéodyme, ça ne parle pas toujours au commun des mortels. Par contre, le sel, oui, c'est quelque chose que l'on conçoit assez facilement. Alors, le sel, la mine de sel qui est dans le Gard, en dessous de Nîmes, c'est une mine de sel qui est exploitée à 2000 mètres de profondeur, entre 2000 et 3000 mètres de profondeur, avec en surface des vignes. Et ce sel est envoyé par Somoduc à l'usine de Quémoine de Fos-sur-Mer et puis de la Vera pour faire de la soude et du chlore. Alors, et puis faire également des monomères de chlorure de vinyle. Alors, c'est quoi cette soude et ce chlore ou ce chlorure de vinyle? Ça sert à faire après du PVC, bien évidemment. Et le PVC, vous le retrouvez essentiellement dans le bâtiment, hein, dans les châssis de fenêtres, qui sont de plus en plus durables, parce que maintenant, ces châssis font à peu près, enfin, durent à peu près 40 ans. Vous le retrouvez également dans les pales d'éoliennes, et vous le retrouvez bien évidemment également dans le médical, puisque 28% des équipements médicaux qui sont en matière synthétique sont à base de PVC. Alors, le sel en lui-même, ça coûte 15 euros la tonne. Donc c'est transporté par circuit court jusqu'à l'usine de Fos qui emploie. Alors le site de Vauvert emploie une vingtaine de personnes. Hein, le site de Fos en emploie 350. Derrière, ces monomères sont envoyés à d'autres usines du groupe Arkema pour faire d'autres produits finis. Mais on se rend compte que un produit qui est totalement insignifiant, enfin, lorsqu'on parle de sel, à quelques euros la tonne, derrière a une logique industrielle importante, puisqu'on découle de nombreuses industries et de nombreuses applications que l'on utilise tous les jours, sans lesquelles il serait difficile de vivre ou de vivre au quotidien. Donc c'est juste une remarque, hein, sur un produit anodin qui donne lieu à de nombreuses applications dont on se sert quotidiennement et sans laquelle l'industrie telle qu'elle existe actuellement ne pourrait vivre en France. Donc de nombreuses usines ne pourraient pas fonctionner sans ce sel, et on voit mal comment un produit à 15 euros pourrait être importé. Comme le disait Mme Herbagé, la logistique est une donnée essentielle dans le coût des matières premières. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt quand même, c'est un exemple qui illustre l'intérêt d'avoir la maîtrise de la matière première pour pouvoir derrière générer des emplois industriels et une industrie aval.
Oui, merci, c'est exactement ce que montrait le diagramme qu'avait présenté M. Marcoux tout à l'heure, qui est dans l'Euro Material Scoreboard, où on voit les différents échelons de la chaîne de valeur. Hein.
Allez, une question. Dernière. Bonjour, Jérôme Brosseron, Société Civile. J'aimerais revenir sur trois aspects que vous avez évoqués dans la réforme du code minier que vos services ont produite. Pourriez-vous développer un petit peu trois aspects: la prise en compte de l'environnement, l'amélioration du dialogue social, du dialogue en général, et la modification de l'après-mine.
D'accord, je vais essayer de faire simple, si besoin, on va faire un tour. Juste très 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 rapidement, en fait, on décode ce qu'il y a dans la proposition de loi. Hein, c'est pas forcément très lisible dans les lois. Donc, la prise en compte de l'environnement dans les décisions de titre minier, ça répond exactement à la question que vous évoquiez, madame. Qui est de doter l'État d'outils juridiques pour apprécier, essayer de caractériser à l'avance si un titre minier a des chances de prospérer au sens pouvoir aboutir à un projet exploitable. Parce que c'est ça, in fine, qui est envisagé. Et donc, est-ce qu'on a essayé d'inventer, enfin, je dis nous, services, mais le Parlement si attelé et à modifier les propositions qu'on a faites, est-ce qu'on a les moyens de prendre en compte l'environnement notamment? Et pas que l'environnement, il y a aussi un sujet que les ONG rapportent aussi régulièrement, qui est l'environnement économique aussi autour de Et donc le moyen qu'on a proposé, qui est aujourd'hui dans la proposition de loi, c'est lors du dépôt d'un titre minier, de faire ce qu'on appelle une évaluation stratégique, comme on fait pour un plus ou un poste. Vous faites un document d'urbanisme, vous avez des propositions d'aménagement et vous devez vous pencher sur la manière dont cet aménagement va pouvoir se réaliser dans l'espace, dans le temps, tenant compte des enjeux environnementaux, notamment. C'est prévu dans le Code de l'environnement. Il y a un dispositif qui s'appelle l'évaluation environnementale plan et programme, dont le numéro m'échappe, le numéro de référence m'échappe dans l'instant. Et c'est ce référentiel-là qu'on compte et qu'on a proposé, qui a été proposé d'appliquer pour appuyer une demande de titre minier. Alors, avec une adaptation aux conditions spécifiques des travaux miniers, mais pour pouvoir avoir un dispositif juridiquement solide. Ça, c'est pour le premier point. Je vous ai parlé aussi de l'impact social, on va dire ça comme ça. Ce que la proposition de loi a introduit, c'est l'obligation pour un demandeur de titre, alors exploration et exploitation, de déposer une étude d'impact social. Donc ce n'est pas l'étude environnementale, on la connaît, elle est cadrée, c'est dans le code de l'environnement, mais ça serait une nouvelle forme d'étude qui est utilisée dans certains pays pour caractériser à l'avance l'impact que pourrait avoir l'activité minière, d'exploration ou d'exploitation, sur les autres activités du territoire. Donc l'agriculture, on pense à l'agriculture, ça peut être le tourisme, ça peut être d'autres activités économiques. Donc ça fait aussi partie des éléments qui ont été proposés, une piste qui a été explorée par le Parlement. Donc ça, c'est pour la partie prise en compte de l'environnement. Sur la partie dialogue, pendant la phase d'instruction des titres, ce qui a été proposé qui a été repris dans la proposition de loi, en fait, est issu des premiers travaux sur la réforme du code minier de 2012, qui ont été conduits par Thierry Thuot, conseiller d'État, qui en fait consiste à créer un groupement participatif d'enquête et de concertation pendant la phase d'instruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un titre minier, vous connaissez la procédure, une fois la mise en concurrence faite, on demande aux services qu'ils en pensent. Il y a une procédure de participation du public qui a été introduite d'ailleurs à l'occasion de l'affaire des gaz de schiste, donc qui se produit par Internet, hein, d'une durée de 15 jours minimum. Et puis c'est nous. Et puis les élus donnent leur avis, et tout ça remonte après au niveau central avec les avis des autorités locales, et le ministre prend sa décision sur notre proposition. Cette partie de la procédure locale serait remplacée, cette partie de consultation serait remplacée en termes de participation du public par une commission spécifique qui étudierait le dossier qui est exprimé, et dont les conditions d'appel, si je peux dire, enfin de mise en place, sont prévues dans la proposition de loi, qui, à mon avis, font que dans 99 fois sur 100, elle pourra se constituer. Enfin, le préfet sera fortement conduit à la constituer. Donc c'est ça la partie... Alors, je ne rentre pas dans les détails de la procédure, qu'est-ce qu'elle doit faire, quelles sont ses limites, elle peut commander des études, etc. Bon, tout ça, je vous renvoie à la proposition de loi. Il faudra sans doute regarder, ça on travaillera sur les instructions du gouvernement. Parallèlement, le Code de l'environnement a mis en place une nouvelle modalité de participation préalable au projet. Il faudrait sans doute regarder s'il n'y a pas du meilleur à prendre du côté du Code de l'environnement pour améliorer la proposition de loi. Je pense qu'il y a des pistes qui pourraient être intéressantes et puis qui éviteraient de multiplier les procédures, ce qui est toujours mieux à la fois pour les opérateurs et pour l'administration. Et puis le troisième point, c'est l'après-mine. Donc sur la pré-mine spécifiquement, il s'agit de l'indemnisation, enfin, parmi les sujets, celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est celui de l'indemnisation des propriétaires vis-à-vis de certains risques miniers constatés, notamment en Lorraine et dans le Nord. Donc c'est les risques qui sont liés aux anciennes mines de fer et de charbon, donc essentiellement les phénomènes de subsidence, d'effondrement. Et donc les modalités d'indemnisation ont été élargies. Avant, c'était uniquement de mémoire les propriétaires individuels de maisons principales et les acteurs économiques aussi. Non, pas les acteurs économiques. Donc ça a été étendu aux acteurs économiques, aux collectivités locales et aux quasiment toutes les... Jean-François ? Et les résidences secondaires. Voilà, donc ça a été une extension du régime d'indemnisation pour ces risques, les risques miniers tels qu'ils sont définis aujourd'hui dans le code minier. Voilà, spécifiquement. Il y a eu d'autres dispositions sont plus techniques mais qui sont importantes, qui sont les modalités de gestion d'un dossier de cessation d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dossiers de cessation d'activité ne sont pas soumis à participation du public. Et là, formellement, dans la pratique, ils peuvent l'être, mais formellement, ça ne l'est pas. Et là, c'est d'introduire ça en obligation dans le code minier. Donc là aussi, il y a un aspect amélioration de la participation du public sur la gestion de l'activité de fermeture et donc le post-mine.
Il n'est rien prévu pour quand quelqu'un cesse une activité pour qu'il dépollue les lieux. C'est obligatoire, mais ça n'existe pas.
Si l'activité aujourd'hui se déroule correctement, elle est mise en œuvre sans pollution. Ou dans des conditions qui sont prévues par la réglementation, des conditions de rejet, etc., qui sont valides pour toutes les activités industrielles. Donc, normalement, vous ne trouvez pas, pour une cessation d'activité qui se passe normalement, vous ne vous trouvez pas avec un site polluant.
D'accord.
On s'y retrouvait dans le passé, oui. Et pas que pour les mines, hélas.
Bien, merci. Merci beaucoup, Rémi. Bien, Monsieur Jacques Testa, ancien jeune opérateur du BRGM et président de la société Variscanmine. Tu peux développer davantage.
Non, je crois. Oui, je suis aussi président de la chambre syndicale. Et je suis. Pardon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les activités de Variscanmine telles qu'elles sont abouties et je me suis demandé comment j'allais faire la présentation. Et je vais l'aborder en revenant aux origines, c'est-à-dire à vous rappeler pourquoi on a créé Variscanmine. J'ai ressorti des slides d'il y a 5 ans et je vais vous les commenter et voir où on en est aujourd'hui. Alors pourquoi une recherche minière en France? C'est là d'abord qu'on s'est posé la question. On s'est posé la question, alors bien sûr, pour en tant que géologue Variscanmine, d'une société privée, mais aussi par mon histoire de géologue tout court, ayant beaucoup travaillé au niveau de l'Europe, au niveau de la France, évidemment, et ayant fait ma carrière beaucoup à l'étranger. Alors on a besoin d'avoir un minimum d'indépendance et de sécurité d'approvisionnement, je ne développe pas, ça a été dit par Eric et par d'autres. Il est certain qu'aujourd'hui, en France, nous n'avons pas suffisamment de matières premières par rapport à nos besoins, d'une façon générale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas en développer, enfin qu'il faudra continuer d'augmenter la production, la consommation tout le temps. Ça, c'est un débat qu'on reprendra ce soir, parce que je crois qu'il est important. Je vous donne déjà une réponse. La seule corrélation que j'ai trouvée entre la consommation de cuivre et les populations, c'est avec les populations. Depuis que le monde est monde, la croissance de la consommation de cuivre est en exacte corrélation avec la croissance de la population sur Terre, tout simplement. Pour satisfaire les besoins nouveaux, alors ça aussi c'est important, il faut savoir que les gisements que l'on a en général sont des gisements polymétalliques, c'est-à-dire que tous ces nouveaux métaux qui sont des métaux qui vont être utiles pour les transitions énergétiques et pour les nouvelles technologies, sont des métaux qui sont la plupart du temps issus de gisements de métaux dits de base, genre cuivre, plomb ou zinc. Et ce sont ces métaux associés. Si on veut avoir accès à ces métaux, il nous faut impérativement, d'une façon ou d'une autre, avoir accès aux métaux de base. Alors, ensuite, donc, on avait ça en tête. On recherche, et malgré ça, ça va peut-être paraître surprenant à certains d'entre vous, mais c'est la réalité. La France avait pour nous un avantage énorme, c'est qu'elle a des règles sociales et environnementales qui sont précises, qui sont importantes, et il était très très important pour nous de pouvoir travailler dans un pays avec de telles règles pour montrer que c'est possible. C'est possible dans le nord de l'Europe, ça doit être possible aussi en France. Travailler les entreprises françaises, bon bien sûr, là je ne développe pas. Mettre en place une déontologie. Alors là aussi, c'est quelque chose que l'on a en tête depuis longtemps et je me suis battu pendant toute ma carrière sur ces sujets-là pour éviter ce que j'appelle les prédateurs et les gaspilleurs. Le code minier est très ancien, mais il avait une notion essentielle qui date de maintenant plus de 200 ans, qui était d'éviter l'écrémage. C'est-à-dire d'éviter de prendre le meilleur d'un gisement pour gaspiller le reste. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, et on avait ça en tête en créant Variscanmine. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. La seule spéculation n'a pas de sens si on veut développer une mine en France. Ce serait ridicule. Ensuite, on est convaincu, et ça a été montré par le slide de de Eric, que le fait d'avoir une production nationale, et c'est ce qu'a dit aussi Bruno avec le sel, permet de sécuriser et d'améliorer une industrie navale. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est avec ces idées-là qu'on est venu se présenter au ministère. Et pour relancer cette activité en France, ben, on a constaté que la géologie était favorable. Et je peux vous dire que la première fois qu'on est revenu au ministère pour dire il y a une géologie favorable, on nous a regardé avec des yeux ronds. On nous a dit c'est pas vrai. On arrête les mines en France, donc il n'y a plus rien. C'est faux, il y a encore des possibilités. Les technologies existent et elles font beaucoup de progrès. Les principes du développement durable, ça doit être un moteur et non pas un frein au développement, et je vous en parlais tout à l'heure. Et par contre, on venait avec une idée nouvelle qui n'existait pas en France, qui était celle de la junior, d'exploration. Autrement dit, l'idée d'une start-up. C'est dans cet esprit-là aussi qu'on crée les juniors. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en France. La plupart des mines, à part quelques sociétés comme La Rochelière, sont des sociétés d'État. Et on avait également l'idée de développer une filière intégrée. Il n'est pas possible de développer une mine, de faire une extraction uniquement pour le plaisir de la faire et de vendre le minerai. Ça n'a de sens que ça aussi, si ça s'intègre dans le territoire. Bien sûr, le code minier en révision, ça a été notre pensum pendant plusieurs années avec beaucoup de travaux de réduction. Alors, c'est dit au Variscan, créé en 2010, sur des capitaux australiens, tout simplement, enfin australiens, ils ont coté en bourse à Sydney, avec des capitaux internationaux, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de capitaux français à risque dans ce domaine pour l'instant. Tous ceux qui risquent sur la mine, mettre leur argent à Londres, et pas en France. Je parle des Français. Donc, notre objectif à nous, c'est de faire de la recherche. Et n'oubliez pas, l'exploration, c'est de la recherche d'abord. Et on fait cette recherche pour bâtir un projet, un avant-projet, un projet, et ensuite un projet bancable. Et à partir de ce projet, on fait une étude de faisabilité complète, et c'est ça qui nous permettra de nous associer avec des partenaires qui, eux, seront assez puissants pour développer ce qui n'est pas le cas d'une petite société comme la nôtre, qui comprend 8 personnes. Et bien sûr, on a des techniques d'exploration que l'on veut modernes. Vous verrez tout à l'heure qu'on utilisait de la géophysique de façon moderne, et surtout le moins envahissant possible. Alors, le choix des titres miniers, quelque chose que l'on a sélectionné à partir de toutes les données publiques qui sont essentiellement celles de l'inventaire minier, hein, bien sûr, qu'on a retraitées à notre manière, c'est-à-dire qu'on les a réinterprétées selon les critères qui sont les nôtres, et on est arrivé à sélectionner un certain nombre de cibles sur lesquelles on en a sélectionné une dizaine. Pourquoi une dizaine ? Parce que dans le monde, en général, quand on est à ce stade de développement, on a un projet sur 20 qui aboutit à une mine. On est un peu mieux en France, on connaît un peu mieux le sous-sol, donc on va sélectionner 10 zones et on pense avoir un secteur qui aboutira à une mine. Vous verrez tout à l'heure les conséquences, c'est pas tout à fait pareil. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? Bon, on a commencé par les méthodes bases, bien sûr, et comme je vous l'ai dit, tous les petits métaux associés, des métaux stratégiques comme l'étain et le tungstène, et bien sûr un sujet or qui accompagne notre. Alors actuellement, on a 9 permis d'exploration, on a dépensé 9 millions d'euros. Alors, tout à l'heure, le chiffre qu'a cité l'ami était de 7 millions. L'écart est tout à fait appréciable. D'abord parce que vous commenciez en 2012, alors que moi, j'ai commencé en 2010. Et ensuite, dans mes 9 millions, j'ai toutes les dépenses de la société, et pas uniquement les dépenses liées aux travaux techniques. C'est ça la différence. Nous avons donc parmi tous ces permis, nous avons déjà renoncé à 2 d'entre eux parce que on ne peut pas tout faire et on commençait à avoir des bons résultats sur les autres, donc on n'a pas insisté sur les derniers permis qu'on a demandé, on a renoncé. Vas-y. Alors voilà leur localisation en Bretagne, Saint-Pierre-Molinard, c'est de l'or, Beaulieu, c'est de l'étain. Autun. Témis, c'est dans la Sarthe, c'était leur ancienne zone de Rouaise. Berléat, Sylphia, Kellogenvel, qui sont les zones sur lesquelles on s'est intéressé. Et vous avez tous les points, les chiffres, ce sont d'anciens gisements qui sont cités dans la liste de l'inventaire minier et que l'on n'a pas mis dans le mémoire, puisque vous voyez bien que nous, on a choisi des secteurs qui pouvaient être des fois en numéro 20 dans la liste du Berger. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur la géologie, mais elle est importante pour vous montrer, et c'est ce que vous a montré tout à l'heure Eric, vous avez vu que les mines étaient essentiellement en périphérie de l'Europe, tout autour, la zone centrale n'avait pas beaucoup d'activité minière. La géologie ne nous dit pas la même chose. La géologie nous dit que toutes les zones grises sont des zones à étudier. Je parle en tant que géologue. Ça se représente, c'est la même chose représentée par des indices. Quand on voit Variscan Edge Mineral Deposit, ça veut dire orogenèse varisque, hercinienne, c'est-à-dire la chaîne varisque. Et c'est comme ça qu'on a créé le nom de varisque. Bien sûr. Donc attention, ce ne sont pas des points rouges qui appartiennent, ce ne sont pas les gisements qui appartiennent à la société varisque. Sinon, hélas, on serait dans une autre situation. Voilà, et vous avez un certain nombre de... Vraiment, vous voyez que la distribution est importante, elle est un peu partout, et nous, on s'est localisé sur certains d'entre eux seulement. Alors, si je fais un bilan de ce qu'on a fait, techniquement, on a pris des permis qui ont surpris tout le monde par leur surface. On a pris des grandes surfaces. On nous a dit, ouais, vous voulez geler tout, vous allez polluer partout. On a pris des grandes surfaces parce que ça nous permettait de faire des études scientifiques pour comprendre. C'est pas en allant sur le réverbère qu'on connaît l'ensemble du trottoir qui est autour. Il faut essayer de prendre une grande zone pour pouvoir l'étudier. Étudier, ça veut dire faire des cartes géologiques, envoyer des géologues sur le terrain, casser des cailloux, faire de la géochimie, faire des survols géophysiques, toutes ces choses qui sont des activités non invasives, mais qui sont nécessaires. Et après, on va en laboratoire, on fait des lames minces, on fait de la microsonde, on fait tout ce que l'on veut. Et ça, c'est très important. Donc, ça nous permet de mieux comprendre la géologie globale du secteur pour sélectionner ensuite les points sur lesquels on va se focaliser, et ce sont ceux-là qui pourront éventuellement un jour devenir les projets, pas la zone elle-même. Alors, quand on a dit qu'on a sélectionné une dizaine de secteurs, bon, en fait, on était déjà pessimiste. Avec moins de secteurs, on aurait pu arriver au même niveau. Bilan, donc la situation géologique est bien meilleure que ce que l'on avait estimé au départ. Nous nous sommes diversifiés, au départ on est parti sur les métaux de base, mais très vite on a évolué également vers les métaux stratégiques, et tungstène, et ça aussi c'est quelque chose qui est favorable. Alors, aussi on a fait les premiers sondages sur le gisement de Saint-Pierre, qui est un gisement d'or. Mais nos autres travaux également nous ont permis de comprendre, enfin de constater que nos interprétations géologiques initiales n'étaient pas obligatoirement les meilleures. C'est-à-dire qu'on est en phase de réinterpréter le type et le modèle de gisement que l'on cherche. Et c'est à ça que sert la recherche scientifique que l'on mène, bien évidemment. Et en particulier, le métallothèque peut être un peu différent pour l'or sur la zone de Saint-Pierre. Alors ça peut avoir quoi comme conséquence? Ça peut avoir comme conséquence que là où on cherchait par exemple une faille, ben on va chercher une coupole magnétique ou des choses du genre. Donc on va peut-être déplacer les zones et les orientations de notre angle. Alors toutes ces techniques que l'on a employées jusqu'à présent, hein, qui sont des techniques vraiment simples, sont des techniques de géochimie. Donc on prélève un sol, on prélève en surface, on prélève à 80 cm de profondeur. C'est une petite barrière, hein. C'est ce qu'on fait pour quand on plante un poteau, on fait la même chose. Et on compare les deux résultats. Et on analyse certaines faces pour amplifier les signaux et mieux les interpréter. On a fait de la géophysique vitelle, que je vous montrerai dans la prochaine diapositive, un exemple. Bien sûr, des sondages. Alors, les sondages, on a fait deux types de sondages, quelques sondages carottés et quelques sondages destructifs. Ce n'est pas du tout la même type de travail, ça ne donne pas les mêmes informations, mais c'est aussi intéressant. On a ensuite préparé les échantillons pour les analyser, et ça c'est difficile. En France, aujourd'hui, il n'y a pas de labo préparatoire de préparation et d'analyse des échantillons. Il y a des universités qui le font, il y a des écoles, il y a un peu de l'IRGM, mais tout ça se fait à une vitesse très lente, il y a très peu de capacités. Donc on a trouvé un seul laboratoire que l'on a développé, qui est celui de Sous-Bonnet. Mais ça, c'est une des difficultés pour avoir des analyses. Aujourd'hui, on envoie nos échantillons en IRA. On arrive quand même, on a monté quand même un laboratoire en ICRF pour pouvoir avoir des premiers résultats assez rapidement, c'est un appareil que l'on passe sur les échantillons pour savoir les teneurs en métaux. Bon, alors, il faut revenir un peu à la géologie. Vous avez à droite une carotte de Merléa, quand on prend les sulfures massifs, donc c'est ce que l'on cherche et ce que l'on vise. Alors vous allez me dire, puisque vous avez ça, vous n'avez pas besoin de faire le sondage. Ben, comme vous l'a dit Rémi tout à l'heure, pour présenter un dossier, il faut ce dossier répondre à un certain nombre de normes, de standards, qu'il soit écrit et réalisé par des gens qualifiés, donc il est très normé. Et aujourd'hui, les informations sont là, sont considérées comme des informations, absolument pas comme des preuves. Bon, donc voilà ce que l'on cherche, ça c'est la reconstitution du gisement volcano-sédimentaire que l'on considère volcano-sédimentaire de Merléac. C'est pour vous montrer aussi qu'on est obligé de reconstituer la paléogéographie, toutes ces choses-là. Donc on n'est quand même pas inconscient, je veux dire, on a un attrait énorme pour l'histoire de notre Terre. Alors les travaux réalisés sur Merléac, bon, c'est tout ce que je viens de vous dire. Hein. On a beaucoup travaillé avec des étudiantes qui font des thèses, des doctorants en particulier, qui nous ont apporté beaucoup. Doctorant, c'est déjà quelqu'un qui normalement fait de la recherche à un haut niveau. Hein. Donc, on n'a pas de soucis et ça nous a apporté beaucoup et c'est ça qui nous a permis de faire évoluer nos concepts de métallogénie. Bon, alors voilà un type de travail. Ça, c'est ce qui affleure, par exemple. Ce sont tous les gossades, c'est-à-dire tous les affleurements sur la zone de Merléac, qui sont des zones oxydées, où les sulfures ont été oxydés par la nature. Et à partir de ces échantillons, bien sûr, on fait des lames, des sections polies, on recherche les minéraux, on trace leur histoire. Les jeunes... Voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et on a pas mal d'échantillons qui ont été prévus. Alors, on a employé la fameuse géophysique avec le MITEM. Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous avez sous un hélicoptère un petit émetteur et vous avez deux boucles qui font 50 mètres à peu près, que l'on passe à une altitude autour de 100 mètres au-dessus du terrain et ça nous permet d'avoir une image de ce qui se passe en profondeur. Alors, d'après le vendeur, c'est jusqu'à 500 mètres. En pratique, on peut dire jusqu'à 250-300 mètres. Et c'est déjà un progrès. Ça nous donne des images que l'on va voir tout à l'heure. Normalement, vous avez l'hélicoptère en train de vous montrer le. Bon, si on voit mon ordinateur, ça fonctionnait ce matin. Bon, là, apparemment, on ne pas. Désolé, on voyait l'hélicoptère qui levait l'anneau et ça vous montrait ce que ça représente. Bon, cet anneau, cet hélicoptère est un hélicoptère tout à fait simple. Et là aussi, on a un exemple de ce qui peut inquiéter les gens quand ils vont passer ça. Donc, on a essayé d'expliquer. Et surtout, il y a eu des analyses de fait. C'est une méthode qui est utilisée dans beaucoup d'endroits dans le monde, hein, y compris en France d'ailleurs, déjà ailleurs et pour d'autres raisons. La mesure, le rayonnement au sol est inférieur à celui d'un téléphone portable. 10 fois moins d'un téléphone portable. Et voilà les résultats en termes d'anomalies. Ça nous donne un certain nombre de points. Et on compare cela par rapport au gisement que l'on connaît. avez Porto-Moine ici, donc, qui est le gisement, enfin la zone connue, où il y a des minéralisations connues, et on fait des comparaisons de ce point-là avec tous les autres. Il se trouve qu'on en a trouvé 41, ce qui est beaucoup trop, donc il faut qu'on trouve plus discriminant que cela, parce que ça a trop bien marché. Voilà. Bon, alors ensuite, Saint-Pierre-Molimar, là c'est le sujet sur l'or, où vous voyez ici, donc il y avait de l'or visible, y compris dans les carottes de sondage. Et on a fait deux tests sur deux secteurs qui avaient une géologie différente, enfin supposée différente, parce que de toute façon ça n'affleure pas à cet endroit-là. Et c'est les premiers résultats, ici, ont été négatifs. Donc notre idée n'est pas la bonne. Alors qu'ici, je pense qu'ils sont positifs, on va le voir avec la diapo suivante. Non, ça c'est les sondeuses, on peut passer. Voilà. Ici, nos jeunes là-haut ont eu l'idée de prendre dans les sondages destructifs, de faire des bâtés sur les 40 kg par mètre que l'on sort. Et dans les bâtés en question, voilà, ça c'est là. Donc, avant d'avoir les résultats d'analyse, on sait déjà qu'il y a des échantillons qui seront positifs. Alors maintenant, on va analyser, on va regarder les minéraux, etc. Ça, c'est leur job. Mais ça a permis d'avoir des résultats très bien. Alors, quoi dire en conclusion, parce qu'on approche de la conclusion. Le potentiel minier espéré, ça, géologiquement, ça s'est confirmé. Ça se confirme. La problématique technique, pour l'instant, on n'a pas découvert de problématique particulièrement différente de ce que l'on connaît ailleurs dans le monde. L'acceptabilité des populations, ça c'est un vrai problème, et on en reparlera, je pense, cet après-midi, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à gérer pour une société petite comme la nôtre, et on a constaté qu'elle était souvent liée à l'histoire même de la région et de son habitude à côtoyer ou à ne pas côtoyer des mineurs et des géologues. Quand je dis ignorance, il ne faut pas le prendre négativement, c'est méconnaissance ou non-connaissance en fait. Non-connaissance des parties prenantes de nos métiers et surtout des évolutions de ce métier depuis quelques années. Si vous me dites, y a-t-il une mine modèle qui ne pollue rien du tout quelque part dans le monde, je vous dirais non, je ne sais pas. Je ne sais pas où il y en a une comme ça. Par contre, je connais beaucoup de monde de mines où il y a des morceaux qui sont très positifs, où on sait faire. On a travaillé, et c'est ça que l'on va rechercher, et c'est ça que l'on va essayer de mettre en place. Aujourd'hui, si je vous dis je veux faire une mine à énergie positive, vous allez tous me regarder avec des yeux ronds. C'est exactement ce que disaient les gens qui feront maintenant des maisons à énergie positive il y a 30 ans. Quand vous me dites aujourd'hui que je pollue tout, c'est exactement ce que faisaient les agriculteurs avant de faire du bio. Donc, si on a la volonté, on peut aller dans ce sens, et c'est bien la volonté de notre société, et c'est la volonté des services publics de nous l'exiger. Donc, nos actionnaires ont très bien compris ça, parce que leur image, à ce moment-là, ne sera plus la même sur le plan international. Donc, c'est très important qu'on réussisse dans ce domaine. Alors, il y a toujours les croyances irrationnelles, ça ne changera pas, il y en aura toujours. C'est dans la vie. Alors les faux spécialistes autoproclamés, moi quand je parle d'un domaine qui n'est pas le mien, je m'autoproclame spécialiste et on me renvoie dans mes buts. Bon, ben, j'ai en face de moi des fois des gens qui sont susceptibles. Ça existe, malheureusement. Et alors le temps a-t-il encore de la valeur? Ça, c'est une vraie question. Parce que le vrai problème que l'on a, on a dépensé 9 millions d'euros. Ça fait 6 ans. Et on progresse très doucement. Donc la valeur du temps n'est pas ressentie de la même façon pour celui qui a risqué son argent et pour les... Donc ça, c'est une question aussi importante, donc il faut tenir compte. C'est pas la plus importante, mais elle existe. Et puis on arrive à un stade où quelquefois je me demande si la communication n'est pas plus importante que le savoir-faire, tout simplement. Ça aussi, c'est bien, il faut de la communication, mais il faut aussi une certaine confiance dans le savoir-faire d'un certain nombre de c'est ça qui n'est pas gagné. C'est ça qui pose problème quand je vous dis que je veux faire une mine à énergie positive, bah, vous ne regardez pas, vous ne croyez pas. quand je vous dis que je ne veux pas polluer, quand je vous dis que je vais protéger les mineurs qui seront au fond, quand je vous dis que je ne veux pas polluer l'environnement, je fais mon maximum pour cela, c'est une volonté réelle de la société. Et il faut que ce message soit reçu et compris. Sinon, on a dit. Alors, je ne voudrais quand même pas qu'on en arrive à ce stade. Que pour répondre à nos besoins, on soit obligé de prendre des scaphandres et aller sur Mars. Peut-être qu'il faut aller sur Mars, hein, ça peut être intéressant pour les générations futures, mais on verra pour la suite. Merci.
Nul doute qu'il y aura des questions. Pensez que j'ai une obligation de respecter le planning et que. En fin de soirée, vous aurez l'occasion de poser des questions. Nous aurons beaucoup d'échanges. Alors, s'il vous plaît, pas trop de questions. Demoiselle.
Chère Jean-Pierre. Oui, bonjour, monsieur Testard. J'avais une question par rapport à Merveac. Il y a eu des articles dans les journaux dernièrement qui sont assez contradictoires. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier les choses? Parce que Olivier Alain, par exemple, a dit qu'il y avait...
Je ne parlerai pas à la place des autres. La seule chose que je peux vous dire, c'est le communiqué de presse que j'ai envoyé à la région Bretagne, disant textuellement, à la demande de la région Bretagne, la société Variscan suspend ses activités de recherche minière en Bretagne, et participera à une réunion ministérielle avec les parties prenantes. C'est notre communiqué et je n'en dirai pas plus.
Pourquoi, oui.
Pourquoi je n'en dirai pas plus?
Non, pourquoi vous êtes
suspendu?
Comment?
Pourquoi vous avez suspendu?
Non, je suspends. Pour l'instant, c'est tout. On a suspendu. De toute façon, on ne travaille pas depuis 6 mois. Alors, un peu plus, un peu moins, ça ne gêne pas. C'est tout. Je n'ai pas à me justifier sur le pourquoi. Je dis, pour l'instant, je suspends. Et je participerai à une réunion, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Je ne développerai pas, en tout cas. Hein.
Oui, je serais très intéressé si vous pouviez développer la mine à énergie positive.
Oui, tout à fait.
Car en ce qui concerne la montagne d'or en Guyane, il est question de tirer une ligne électrique de Saint-Laurent sur 85 km pour un coût de 60 millions d'euros. On sait faire, mais ça coûte 60 millions d'euros. Il est question de l'obligation de créer un port en eau profonde, de refaire la route avec les coûts d'entretien. Et on se demande, nous, qui va payer tout ça, quoi.
Bon, je ne pourrais pas parler au nom de la société en Guyane. Hein. Je connais la Guyane parce que j'y ai travaillé mais il y a déjà un certain nombre d'années. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas comment est fait le financement de toutes ces infrastructures. Il est évident que quand on fait une mine quelque part, on a besoin d'infrastructures. Donc, savoir, je ne sais pas si c'est prévu dans le business plan de la société ou s'il y a des subventions ou pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous répondre sur ce point précis.
Alors, et sur l'énergie positive?
Sur l'énergie, la mine à énergie positive. Mais écoutez, l'idée est venue d'une manière assez simple. Il y a en Écosse d'anciennes mines qui sont utilisées comme réservoirs de chaleur pour faire de l'énergie géothermique. Et à partir de cette idée-là, on s'est dit, oui, il y a des possibilités. Ça, c'est une première façon. Quand on envisage de faire de la mine, c'est-à-dire de remettre ce que l'on enlève, de le remettre dans la mine, bon, il est tout à fait envisageable, mais c'est à étudier, donc on va faire des recherches scientifiques là-dessus, mettre des tuyaux et de faire une usine géothermique en profondeur. Ça, c'est une première option. La deuxième option, qui est beaucoup plus importante, c'est l'économie d'énergie lors du fonctionnement de la mine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. L'énergie dans la mine, c'est quoi? C'est le déplacement de tonnes et de tonnes de matériaux. Moins on les déplace, moins on les emmène loin, moins on dépense d'énergie. Donc là aussi, il y a des optimisations à faire, il y a des travaux à faire, etc. Donc j'invente rien, ça se fait déjà dans certains endroits et dans la même façon assez correcte. Après, on peut aussi voir parmi les énergies nouvelles, celles qui sont directement utilisables par la ville elle-même. Et là, ça dépend des localisations. Si je vous dis que je vais utiliser une chute d'eau alors que c'est dans un terrain plat, ça ne marchera pas. Mais on peut avoir du solaire, on peut avoir de la géothermie, on peut avoir de l'éolien et éventuellement de la biomasse dans d'autres endroits. Mais l'important, c'est d'avoir l'idée de la recherche de cette économie d'énergie.
Christophe Journy, merci pour ces détails. Est-ce que sur le plan capitalistique, investissement, quelle est ton approche depuis 7 ans, je crois, enfin un peu plus parce qu'il me semble qu'actuellement, il y a des choses qui bougent dans le paysage, en tout cas mondial. Quand je vois la Mongolie qui arrive à développer une mine géante au Butoku, quand je vois ce que font les Chiliens, j'ai pu visiter l'an dernier des choses intéressantes, avec finalement des moyens humains et technologiques extrêmement développés aussi, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir. Comment est-ce que pour une petite union minière, NEPA, Codelco, Rio Tinto, les choses se passent face aux investisseurs?
Alors, c'est un point important, qui nous est souvent, sur lequel on nous questionne souvent. Aujourd'hui, quand je demande un titre minier, l'administration nous l'accorde, nous refuse, et il est associé à un certain nombre de contraintes, qui sont les contraintes légales, et les engagements que l'on prend. Quand on cherche du partenaire pour redévelopper cette mine, pour l'exploiter le jour où on arrivera à avoir fait la faisabilité, tout ce que l'on a pris comme contrainte, accepté et indiqué comme contrainte, sont évidemment reprises à minima par la société qui viendra travailler avec nous. Sinon, ce ne sera même pas autorisé, de toute façon. Cette société, la plupart du temps d'ailleurs, va aller plus loin et va probablement même améliorer encore ce qu'on a considéré comme des contraintes. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Il est certain qu'une société qui a 8 personnes ne va pas développer une mine avec 500 employés comme ça, ou mobiliser sur son seul nom 300 millions, 400 millions d'euros. Ça ne se fera pas de cette manière-là. Donc, il nous faudra trouver des partenaires. On a déjà des contacts avec tous ces partenaires au moment où on cherche, bien évidemment. On a déjà un certain nombre d'approches, on a une approche qui existe sur la filière aval qui va en découler. On a déjà des contacts avec ceux qui, éventuellement, feront l'usine de transformation, de première transformation, ou les produits, de façon à ce qu'ils investissent en fonction de ce que nous, on sera capable de faire. Alors tout ça, ça fera partie de ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Et c'est à partir de cette étude de faisabilité qui sera discutée qu'ensuite le projet pourra démarrer. Donc notre premier travail, c'est de bâtir le concept, de le démontrer, de l'appuyer par des études, et c'est ensuite seulement qu'il y aura éventuellement des autorisations de développer. Mais le projet n'est pas qu'un projet de tout seul. Ça marche
pas. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pourriez préciser la nature des liens entre Variscan et Juniper Capital Partners, qui, semble-t-il, est une société hébergée aux îles Vierges britanniques, c'est-à-dire dans un paradis fiscal?
Variscan a signé une joint venture, effectivement, avait signé un accord avec Juniper pour rechercher justement des sociétés capables de venir avec nous pour les phases ultérieures. Nous avons donc maintenant un accord avec une société qui s'appelle Apollo, qui est basée en Australie. Ça, c'est uniquement pour le projet de Houflan, c'est-à-dire que ce n'est pas pour les autres projets. Et dans cette société, Variscan gardera 20% et Apollo, qui est donc coté en bourse, prendra 80%. C'est Apollo
Minerals.
Minerals, hein.
Apollo il ne sait même pas.
Le groupe Apollo tout seul.
Il ne sait même pas.
C'est un groupe financier, c'est Apollo Minerals, qui est donc une société australienne, cotée à la bourse de Sydney. qui prendra 80%, et tous les ensemble, nous créons donc une nouvelle société qui s'appelle Mines du Salat, et ça, sous couvert des actes de l'accord de l'administration, évidemment, c'est cette Mines du Salat qui prendra le relais dans lequel le Marisquan ne gardera que 20%. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de dépenser les 25 millions projetés sur la recherche. Ça, ce sera développé tout à l'heure par M. Bonnemaison, qui parlera plus du projet.
Juste pour vous, pour compléter, c'est pas exactement la question que je voulais poser, mais c'est juste d'abord pour compléter ce que vous venez de dire. Effectivement, aujourd'hui, il y a des sociétés écrans qui cachent Juniper, mais Juniper est toujours derrière. C'est écrit texto dans une lettre que vous avez reçue au mois d'octobre. Si, monsieur. C'est vous qui l'avez reçu, donc c'est écrit texto. Ah oui, non, mais c'est une fausse lettre. Non, mais c'est vous qui le dites. D'autre part, comment dire, Juniper est toujours derrière Apollo, parce que monsieur Kerjival est toujours par là. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, la question que je voulais... Non, c'est pas faux. La question... Ben, vous n'avez qu'à lire la presse australienne et ce qui est sur les sites d'Apollo Minerals, notamment, d'accord.
Posez votre question.
D'accord. Ma question aujourd'hui, c'était, je voulais savoir si Variscan n'avait pas actuellement des difficultés financières ou des problèmes avec ses actionnaires qui font que, justement, il n'y a pas d'activité en Bretagne, où vous êtes un peu en stand-by, quoi, si je peux dire. C'est ce qu'on lit à droite à gauche, donc je voulais savoir si la rumeur était vérifiée ou pas.
Il y a tellement de rumeurs. Bon, d'abord, première rumeur. Je m'inscris en faux sur votre affirmation comme quoi le groupe Apollo est sous la contrainte ou sous le chapeau de Juniper. C'est absolument faux. Le fait qu'il y ait une personne de Juniper qui soit encore dans le board, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que la société Apollo dépend de Juniper.
Ah non, alors d'accord, ça, c'est bien caché, vous en êtes d'accord.
Bon.
Mais c'est le but, hein. C'est pas autre chose.
Mais non, c'est pas une...
Mais bien sûr que si, c'est le but.
Quel but, enfin,
mais le but, c'est ça, c'est que votre seul financement, il vient de là, de sociétés offshore, et vous voulez les planquer, parce que M. Galin vous a dit il faut revoir la copie parce que ça ne marche pas. Ça.
Non, je ne veux pas accepter que vous disiez...
Non, mais vous avez posé une question, vous avez compris la position.
Oui, oui.
C'est faux.
Et Jack, il
mais ce n'est pas faux du tout.
Non, mais vous affirmez quelque chose,
oui.
Moi j'affirme autre chose.
Voilà.
Moi j'affirme,
voilà.
Et je peux démontrer, et vous
moi
regardez
aussi.
Les financements de Apollo... Et vous verrez d'où viennent les financements d'Apollo. Bon, voilà, c'est dit. Et nous, on a
d'où
signé et on garde 20% dans la société Mines du Salat, où Apollo détient 80%. Et cette société est contrôlée par la bourse australienne, qui est aussi sévère que la bourse française, dans ses montages financiers. Ensuite, en ce qui concerne Variscan, écoutez... Pour l'instant, on est toujours dans les mêmes types de financement qu'au préalable, les mêmes rythmes de dépenses, et puis voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à annoncer là-dessus. On n'est pas en difficulté, sauf à avoir des difficultés pour faire notre travail, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir des difficultés financières.
Bien, bon, ça, ce sont des échanges, c'est bien, c'est ce qu'on souhaitait. Merci beaucoup. Bien, nous continuons avec... Oui, nous continuons avec Michel Bonnemaison, l'ancien du BRGM, qui est directeur général de Variscan. Et tu pourrais m'expliquer plus que ça. Tu as un laboratoire.
Bonjour. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'exprimer au nom de Variscan, je vais m'exprimer au nom d'une autre petite société qui s'appelle Limine, qui est une société de R&D. Donc on va prendre un petit peu de distance avec justement le côté très, très appliqué pour revenir sur les réflexions qui permettent, je dirais, de pour voir la filière minière. Donc d'abord, Imine, tout comme Variscal, c'est une toute petite société, c'est une TPE qui a 10 personnes, qui a été créée en 2011 et qui se dédie aux aspects de R&D plutôt fondamentaux sur les, la recherche métallique, sur la métallogie. Pour pouvoir mener à bien ses travaux de recherche, elle avait constitué un laboratoire qui est utilisé, on l'a vu, par Variscal Mines, de pouvoir faire ses analyses, etc. Puisque, bon, on avait une capacité de traiter plusieurs milliers d'échantillons par mois, ce qui n'est pas le cas généralement des laboratoires universitaires. Donc, le boulot, c'est l'expertise des gisements, et on s'est dédié plus spécifiquement aux métaux critiques et stratégiques. On pourra revenir sur le pourquoi de ce choix. Le but, c'est une TPE, et donc c'est de vendre des services. Donc ces services, c'est ciblé, je dirais, sur les sociétés minières. On a vu qu'il y en avait plusieurs qui s'étaient installés en France pour faire ce que fait Variscal. Donc comme Côte d'Or, Cordier, d'autres. Mais l'effort de, je dirais, l'approche scientifique, technique, de diagnose est quelque chose, je dirais, d'un peu spécifique, qui est coûteux, quelque part, et qui a, est difficile pour certaines sociétés d'avoir l'ensemble du panel. C'est-à-dire qu'elles préfèrent souvent sous-traiter des aspects amont, comme la sélection de cibles. On veut trouver des métaux, mais où est-ce qu'il faut aller? Ou si on va quelque part, quel est le modèle, et on va voir que le modèle métallogénique a une importance primordiale. Et puis ensuite, si on sait ce qu'on veut chercher et dans quel modèle, quelles sont les technologies qu'il faut mettre en place. Et dans bien des cas, on en est obligé de remonter, je dirais, à des études beaucoup plus fondamentales que le simple déroulé de techniques éprouvées. Alors d'abord, un des premiers arguments, on a vu un peu avec Jacques, il s'est déjà bien exprimé là-dessus, et qui est posé par ces sociétés qui viennent, c'est bon, ouvrir une mine en France, ouais, ok, pourquoi? Alors, on a bien sûr les arguments, on va créer de la richesse, bon, mais vous aurez immédiatement un argument contre qu'on a entendu, oui, bien sûr, mais la richesse pour qui? C'est juste pour enrichir des multinationales. Alors, on va ensuite pouvoir dire, ben, c'est bien, on va créer des emplois non délocalisables. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce qui est le syndrome germinal, mais bien sûr, des emplois, mais on sait ce que c'est la gueule noire qui pousse son wagonnet, qu'on a tous vu à la télévision dès qu'on parle de mine. Hein. Donc, c'est des choses du passé, avec des conditions de travail déplorables. Rendez-vous compte, ce genre d'emploi. On va ensuite dire qu'on va réduire les importations. On a vu qu'on était dépendant de pratiquement tous les métaux en Europe. On va vous rétorquer, mais non, finalement, on n'a pas besoin d'importer les métaux. Bon, on importe des casseroles, mais ce n'est pas de l'aluminium. On va parler aussi de sécuriser les filières industrielles. On a pu voir qu'il y avait une relation entre le fait que les mines se portaient bien quelque part et qu'à côté, on avait des industries qui consommaient ces métaux. C'est vrai aussi dans l'autre sens, et c'est un peu le but de cet exposé. C'est quelquefois parce qu'on a des industries qui les consomment que les mines peuvent exister, et pas forcément l'inverse. Donc cette sécurisation des filières industrielles, c'est quelque chose qui vaut dans les deux sens. Et on va donc détailler davantage. Mais là aussi, on va dire des métaux critiques, mais pourquoi faire finalement? Il suffit de recycler. Bon, on n'a pas besoin d'en produire. Et puis le développement régional, mais une mine c'est régional, et on va voir surtout si on met une filière industrielle avec, ben, ça sera encore plus régional, mais on aura bien sûr le contre-pied qui va dire « Vous allez détruire l'agriculture, vous détruirez le tourisme, l'environnement, etc. » Donc on va essayer d'argumenter à chaque fois, et le seul argument qui, au bout du compte, au-delà des débats, peut tenir la route, mais ce sont quand même des arguments scientifiques. Et donc, quel métaux chercher en France? Alors, nous, on a dit, ben, d'abord, je s'intéressais plutôt aux métaux critiques et stratégiques. Convaincre qu'on a à tout prix besoin d'une mine d'or, bon, de l'or, c'est de la richesse, bien entendu. Ceci dit, de l'or, il y en a partout. Et puis, même si la France produit de l'or, on n'a pas un sous-sol particulièrement riche. Par contre, on a ciblé trois substances qui sont le tungstène, l'antimoine et le titane, dont on va pouvoir voir une certaine approche. Si on étudie correctement en amont, et ça se fait déjà dans le laboratoire avant même d'avoir exploré, dès qu'on a le modèle, on peut parfaitement anticiper les problèmes environnementaux qui seront liés à l'exploitation. Et pour ça, ce qu'il faut impérativement, c'est une connaissance approfondie de la nature des roches et des minéraux qu'elles contiennent. Lorsqu'on aura bien ciblé cette connaissance-là, on pourra déjà anticiper tout ce qui pourrait être répandu dans l'environnement si on devait y toucher. Et donc anticiper les problèmes, mais pas que les problèmes, également les solutions pour le traitement, et on va voir l'implication. Ensuite, bon, on va anticiper également, et on a vu, souvent on pouvait confondre la partie traitement de l'usine finalement, et la partie de l'extraction. Donc cette même connaissance des roches va aussi porter sur l'usine, l'installation classée, qui va pouvoir accompagner la mine. Et on va voir qu'il faut aller au-delà même de cette usine de traitement, parce qu'on va essayer de ne pas se contenter de produire concentré, on va essayer de produire l'étape après, c'est-à-dire les produits de première transformation. Donc, pour intégrer donc cette filière, qui va nous permettre de déterminer au besoin le modèle minier, si on envisageait de faire une usine qui va produire un métal, il est possible que la mine elle-même n'ait pas la même structure que si elle envisageait de fabriquer un concentré. Et on verra cette implication également. Et puis, il faut quand même planifier le long terme, parce que si on vise à installer une industrie, ben, ce n'est pas pour ouvrir une mine qui va vivre 10 ans. On n'installe pas une usine métallurgique pour 10 ans. Donc, il faut bien qu'il y ait des réserves importantes. Et si on a des réserves importantes, il faut chercher peut-être certains types de gisements plutôt que d'autres, etc. Quelle méthode chercher ? Si on regarde les années 1980, alors c'est déjà très vieux pour beaucoup d'entre vous, donc nous on a déjà un peu le recul, en gros on exportait une dizaine de métaux. Si on passe dans les années 90, on était à une quinzaine de métaux. Aujourd'hui, dans les années 2000, on va dire, on allait à plus de 50 métaux. C'est-à-dire que c'est les mêmes roches, globalement, sauf qu'on va commencer à extraire de là-dedans beaucoup plus de produits. Ces produits, d'ailleurs, qui sont dans le dernier tableau, c'est ce qui, alimente allègrement les sources de pollution de tous les déchets des mines des années 90 et 80, parce qu'à cette époque-là, on ne voulait pas, c'était un déchet, on le laissait dehors. En regardant bien, on s'est inquiété maintenant sur l'Europe, c'est un diagramme que vous avez vu, et qui définit, je dirais, les domaines en fonction de l'importance économique et de la difficulté pour s'approvisionner. Et donc, plus on monte, je dirais, sur la partie droite et haute du diagramme, plus il y a des dangers, et on peut voir tout à fait, en bout de chaîne, ici, le tungstène. Et donc, on va en parler, on verra qu'il y a d'autres éléments, et également, il y a dans celui-là, on va le retrouver. Il y a également l'antimoine qui pose un problème, et c'est pas par hasard qu'on va retrouver ces deux éléments dans les métaux que l'on a ciblés. Bon, c'est une autre représentation aussi sur. Maintenant, on sort de le niveau européen pour aller au niveau français, et on retrouve bien sûr en première priorité certains éléments qui sont ici. On retrouve le niobium, mais Eric en a parlé tout à l'heure, mais on a également bien sûr les terres rares, bien sûr le tungstène et l'antimoine. Pour les terres rares, il n'y en a pas en France. On va voir que pour le tungstène, on a la chance d'avoir un territoire qui est largement privilégié, mais c'est également vrai pour l'antimoine et également pour d'autres métaux qu'on va voir. Justement, le tungstène. Alors, déjà, on a vu que ce métal est à la fois critique et stratégique. Alors, pour le terme, on emploie métal critique quand très peu d'acteurs le dominent, et si un de ces acteurs, je dirais, a une velléité quelconque, il peut influer un gros contexte géopolitique. Pour le tungstène, 85% de la production de tungstène vient de Chine. Bon, on peut s'imaginer, si une restriction chinoise est importante, ce qui peut se passer, le temps que des mines ouvrent ailleurs, qu'on puisse mettre en circuit, je dirais, une production, il se passe facilement 10 à 15 ans, et ça peut provoquer des crises telles qu'on les a connues sur les terres rares. Donc, maintenant, pour comprendre un choix industriel, on parle bien d'exploration minière, mais on va commencer à regarder à l'autre bout de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe quand on fabrique, en gros, quand on a une mine qui va fabriquer du tungstène? Eh bien, on va se fixer d'abord sur les cours du mois dernier. Hein. Donc, on est sur un prix qui est actuel. Le concentré, eh bien, si on va acheter du concentré, aujourd'hui, ben, on va quand même regarder le prix du concentré chinois, puisque 85%, hein, c'est... Et un concentré chinois, ça contient 65% de WNO3, donc c'est de tungstène, et ça vaut à peu près 10 000 $ la tonne. se concentrer, c'est de la wolframite ou de la scheelite. Bon, en soi, ça ne s'utilise pas. Hein. Pour pouvoir commencer à le mettre, je dirais, dans le circuit industriel, on a un produit de première transformation qui est l'APT pour le paratungstate d'ammonium et qui, d'un coup, commence à valoir 18 500 la tonne. Au moins qu'on passe déjà, je ne dis pas qu'on n'a pas du tout à doubler, mais pas loin. Un autre produit qui est un petit peu concurrencé de l'APT sur la première transformation, c'est l'oxyde. Lui vaut 21 000 $ la tonne. On se rend compte donc que le mineur va devoir trouver une mine, l'exploiter, vendre concentré, et celui qui a l'usine va gagner autant, finalement, entre-temps, ce produit-là. Donc la valeur ajoutée, ben, elle est quand même largement de plutôt ici. Alors, pour la tentation, c'est de dire, bon, ne soyons pas bêtes, on va faire donc notre propre transformation tout de suite. Et on va doubler la valeur ajoutée. Oui, mais à ce moment-là, il faut que l'usine puisse durer longtemps. Donc, il faut trouver un gros gisement. Et l'exploitation d'un petit gisement quelque part, ben, ça ne marche plus. Ensuite, il faut que le coût de cette usine soit incompatible avec le produit. Alors, si on fait de l'APT, les usines de paratungstate d'ammonium, c'est des grosses usines. C'est des usines où il faut plusieurs centaines de millions d'investissements. Et aujourd'hui, il existe une technologie qui est l'hydrométallurgie, qui est à point ou subappoint, je dirais, dans les phases, je dirais, terminales de développement, qui permettent d'obtenir directement l'oxyde, pas l'APT. Et sur ces usines-là, ce sont des usines où le coût d'investissement serait de l'ordre d'une cinquantaine de millions. Donc on est sur quelque chose où le capital investi pour ajouter, je dirais, la transformation sur la production minière, devient tout à fait raisonnable et peut-être examiné dans un même projet. Donc, pour pouvoir faire de l'hydrométallurgie, ben, il faut déjà avoir un minerai qui puisse se solubiliser quelque part dans un jus. Alors, là, les deux minerais de tungstène, finalement, c'est soit l'oxyde, qui est donc la wolframite, soit le carbonate, qui est la scheelite. Bon, tous les deux contiennent à peu près le même contenu en métal, sauf que ben, un est soluble dans l'acide et l'autre ne l'est pas. Alors, si on veut faire de l'hydrométallurgie, et si c'est notre idée première, avoir une usine de transformation, ben, on va plutôt faire de l'exploration pour trouver des gisements de scheelite plutôt que des gisements de wolframite. Donc, on aura ainsi, je dirais, un choix. Si on s'oriente vers l'hydrométallurgie, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la qualité du concentré. Si vous êtes vous-même l'utilisateur du concentré, vous allez faire un design de votre usine de traitement adapté. Et vous n'êtes plus soumis à la règle du marché. Le marché, c'est au moins 65%, je dirais, de tungstène contenu. Par contre, on s'est traité par hydrométallurgie entre 25 et 30%. Donc, pour, je dirais, une entreprise qui intégrerait son unité de première transformation, elle ne va pas produire le même type de concentré, et en produisant un type de concentré à plus faible teneur, elle aura une meilleure récupération, et on parlait tout à l'heure de l'écrémage, et faut-il tuer le bœuf juste pour manger le filet, mais non, pas vraiment, là, on peut se payer le luxe donc d'avoir une bien meilleure récupération du métal et profiter davantage du gisement, simplement parce qu'on va savoir l'utiliser dans sa propre usine. Alors ça a une incidence majeure. On a parlé, on a évoqué, M. Galin a évoqué, une visite à la mine de Mittersill. Il faut savoir que Mittersill, c'est, je dirais, un parallèle à la mine de Salo dans le sud de la France. Mittersill, ça a ouvert en même temps, dans des conditions de montagne, dans un parc naturel. On est, je dirais, en situation presque clonée. Avec une différence, le minerai de Mittersill est moitié moins riche que le minerai qui était dans la mine de Salon. Lorsque le dumping chinois a frappé l'industrie du tungstène, on va dire, vers le milieu des années 80, la mine de Salon n'a pas résisté, la mine de Mittersill a parfaitement résisté et produit toujours aujourd'hui. Pourquoi ? Et parce qu'étant intégré, ils n'étaient plus soumis aux mêmes lois de marché quant à la production de leur concentré. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi pour la stabilité, je dirais, d'une entreprise. C'est bien de se consolider un petit peu sur les prix, la façon dont on l'utilise, etc. Et ça, c'est très, très important. Un autre avantage de la scheelite, c'est que ce sont des minerais potentiellement peu contaminants aussi. on a en général peu de sulfure, on n'est pas très ennuyé avec, je dirais, les règles classiques d'autres types de minerais. Donc l'objectif, si on veut respecter ce genre de choses, c'est bien sûr de trouver un gros gisement potentiel de scheelite. Et pour ça, il faut savoir où le chercher, comment le chercher, et rentrer à fond dans les modèles pour être sûr que, parmi les indices qu'on pourrait regarder, celui-là sera plus particulièrement bon. Donc on a parlé aussi des données d'alimentaire, et sur ces données d'alimentaire, on a retenu en priorité, alors pas Imine, Imine l'a retenu pour ses clients, et dans ce cas-là pour Barisca, le gisement de Salo en Ariège et le gisement de Cotanos, qui est le permis de Locampel, disons, dans les Côtes d'Armor, qui sont les deux qui présentent les meilleures caractéristiques pour obtenir des gisements de grosse dimension avec l'échelle. Pour ça, ensuite, il faut un gros gisement. Le gisement de Salo, quand on regardait, je dirais, ces données dans la bibliographie, c'était en gros 5000 tonnes de tungstène. 5000 tonnes de tungstène, c'est un tout petit gisement. On est très loin du compte pour se fixer les objectifs qui avaient été vus. Donc il y a eu un travail qui a été lancé sur un travail de thèse pour réexaminer, je dirais, avec les technologies d'aujourd'hui, qui sont les constructions de modèles de blocs, les redéfinitions de minerais, les adaptations aux teneurs de coupures d'aujourd'hui, etc., sur toutes les données anciennes. Et vous voyez ici la classique courbe, je dirais, tonnage-teneur, qui montre que, globalement, si la mine exploitée à l'époque a des teneurs, je dirais, de coupures qui étaient au-dessus du pourcent, on se retrouvait donc avec des tonnages tout petits, et on retrouve globalement les 10 000 tonnes sorties, etc. Mais si on prend des teneurs de coupures à 0,3, on se retrouve avec des 40 000 tonnes de tungstène contenu. 40 000 tonnes sur des productions, je dirais, de en gros 2 000 tonnes l'an, ce qui serait déjà plus de deux fois la production passée de la mine, plus de 4 fois la production de maintenant de Mittersil. On est déjà sur des notions qui durent pas mal. On a eu 30 ans de vie, donc c'est plutôt bien pour la durée. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi déjà une vie au-delà? Alors, c'est là que les études, je dirais, amont et de recherche sont importantes. Vous voyez ici une interprétation avec le gisement de Salo qui est ici. Et vous voyez ici une technologie qui a été employée et qui est celle d'une paléothermicité par spectrométrie Raman qui permet de voir, je dirais, la chaleur qu'a dégagé le minerai lorsqu'il s'est mis en place et de pouvoir la mesurer. Et on voit ici, bien sûr, la chaleur liée au gisement de Salo, mais on voit ici la trace thermique d'autres objets, on est quand même sur des distances de l'ordre du kilomètre. On a pu vérifier, vous voyez ici les points d'échantillonnage, des teneurs à tungstène sont très importantes ici, ce qui fait qu'on a la possibilité d'un développement hors mine de Salo de ressources encore tout à fait importantes sur un aspect géologique, mais qui ne nécessite pas, je dirais, une investigation approfondie tout de suite, si on pouvait déjà démontrer, en gros, 20 à 30 années, déjà à l'intérieur de ce qu'était le gisement. Donc voilà un exemple, je dirais, où comment un choix peut être fait avec, en se donnant a priori, je voudrais plutôt avoir une installation intégrée pour assumer sa durabilité et à partir de là, quel type de minerai je dois rechercher. Pour un mineur, je dirais, qui irait d'entrée de jeu sur du tungstène, la wolframite a beaucoup d'autres avantages. Si on veut faire un concentré, la wolframite, c'est magnétique, on fait une séparation magnétique, on n'a pas besoin de faire des flottations compliquées, c'est l'idéal. Sauf qu'on ne fera pas d'hydrométallurgie derrière. Et il faudra avoir un concentré à 70%, etc., etc. Donc, on voit bien que ce choix a été guidé par la main. On peut regarder un autre métal maintenant, qui est l'antimoine. Alors, l'antimoine, c'est également un métal critique. La Chine doit en faire 85 ou 90% aussi, un petit peu comme le tungstène, c'est un peu la même chose. Et il est stratégique. Bon, il est pour nous très important, surtout en industrie automobile, pour ses capacités de retardateur au feu, etc. Alors, ça a une caractéristique, ça ne fait pas de gros gisements. L'antimoine, c'est toujours des petits filons, partout sur la planète, il n'y a pas de monstres pour les gisements, je dirais, d'antimoine. La France a longtemps produit, elle a exploité ce qui était le plus gros filon connu d'antimoine, c'était la mine de la Lucette. Donc, qui à produire à peu près 40 000 tonnes d'antimoine dans une même lentille. Et ça, ça a fermé vers la fin des années 50, je crois. Ou pas 30. Donc c'est même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait aussi ? Ben, on sait que ça met la métallogénie de l'antimoine, au bout du compte, elle est vraiment méconnue. Et en particulier sous l'aspect de son exploitation simultanée avec des métaux associés. Alors, on savait déjà que l'antimoine, dans bien des cas, est associé à l'or. Bon, c'est toujours intéressant. Si c'est des petits filons, c'est des sociétés minières de petite taille, elles peuvent être très sensibles. S'il y a de l'or avec, c'est quand même mieux. Pour la petite histoire, quand la Lucette a exploité, il y avait plus de 10 grammes tonnes d'or dans la Lucette. Le mineur ne le savait pas et il s'étonnait même que, je dirais, l'acheteur allemand de l'époque était très intéressé pour lui racheter le quartz. Bon, il avait juste oublié qu'il y avait de l'or dedans. Et on est resté sur cette idée, la Lucette, gros gisement d'or et d'antimoine, et c'est ce qui figure sur la carte minière du Bergère, où on peut le vérifier. Alors, il n'y a pas que l'antimoine tu peux revenir. Oui, tu peux passer. Donc, la Lucette est ici, hein, il n'y a pas que la Lucette, il y a d'autres indices, en particulier dans cette zone, on va voir, et puis, bon, on en a un petit peu partout, mais essentiellement également dans celle-là. Donc, voici les indices, il y en a à peu près 500 de connus. Parmi ces 500 indices de connus, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Alors, on peut isoler finalement trois districts sur des productions historiques. Le secteur de la Lucette, on vient d'en parler. Vous voyez que je mets Tuxen, on va en parler maintenant. Donc, en gros, c'était antimoine or, et c'est ce qu'il y a encore dans la bibliographie, et que vous trouverez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne verrez pas la mention de ce double. Il y a un autre district qui a produit également, qui est celui de Roche-Tréchou, en Vendée. Bon, là, on a à peu près la même production. Chaque fois, c'était 40 000 tonnes. Et il y a également, dans le Massif central, le district de Brioux de Massiac, dans lequel on a produit aussi à peu près 40 000 tonnes à 5 tonnes près. Avec quelque chose qui attire l'œil quand même, c'est qu'autour de la Lucette, on connaît en tout et pour tout, je dirais, une vingtaine d'indices d'antimoine. Autour de Roche-Tréchou, on en a à peu près une cinquantaine. Et autour de Brioux de Massiac, on en a environ 350. Tout ça pour des productions à peu près équivalentes. Alors, est-ce que c'est que les gens n'ont pas su trouver ici, ici sont et c'est caché, sans fleurement, je ne sais pas trop. Est-ce que le phénomène est peut-être un peu mieux contrôlé ici? Ici, on est dans le Massif central, ça fleure mieux, c'est peut-être ça qui est en question. Ou est-ce qu'on n'a pas affaire à des modèles métallogéniques différents? Tout ça, on était bien content de l'appeler filon antimoine. Ben, c'est une description, ça n'est pas un modèle métallogénique. Donc là, la surprise, pour étudier, je dirais, le tungstène, on a mis un étudiant en thèse pour développer les modèles de scheelite, et on a pu voir l'impact sur la caractérisation d'un gisement comme celui de Salo. Mais sur l'antimoine, voilà donc une première. Vous avez le scoop ici, fait donc par l'étudiant Florent Cheval-Garabedian, la découverte de tungstène en grande quantité dans le minerai de la Lucette. C'est un phénomène qui est resté inconnu jusqu'à maintenant. Vu les quantités que l'on voit là, c'est au moins aussi riche que le minerai de Salo. Alors, les proportions, aujourd'hui, inconnues. On ne sait pas. La seule chose que l'on sait, c'est que tous les échantillons de minerai qui ont été regardés de la Lucette renforment de la scheelite en très grande quantité. Ce qui peut expliquer déjà un autre modèle. C'est-à-dire que la fabrication de l'antimoine à la Lucette n'est pas la même que celle qui a été dans les autres secteurs. Et par contre, on est beaucoup plus proche d'un modèle comme celui de Salo, où on a également l'or qui est associé, bien sûr. On ne le voit pas, puisque ça, c'est à l'échelle macroscopique, hein, c'est des cristaux centimétriques. On ne voit pas les grains d'or qui sont là-dedans, mais qui sont très nombreux. Donc, on a un minerai, finalement, tungstène or, comme à Salo, avec de l'antimoine, et c'est ça la Lucette. Alors, on voit l'impact important qui est de faire, je dirais, une analyse approfondie pour la valorisation intégrale d'un minerai. Aujourd'hui, on irait sur la Lucette, on commencerait par regarder une mine de tungstène or avec de l'antimoine. Et on n'aurait pas du tout la même approche que celle qui a eu lieu au début des années 1900. Donc ça, ce travail, je dirais, de thèse, n'est pas réalisé par les juniors, elles n'ont pas le temps. Une thèse, c'est 3 ans, voire 4 ans. Et les nécessités pour poser un permis, c'est 6 mois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce travail, je dirais, amont, en termes de R&D, pris, je dirais, soit par des facettes purement universitaires, soit par des organismes publics, soit par des sociétés privées, il y aura du mal à faire de la promotion minière. Un dernier exemple, pour reparler de Laval, c'est le titane. Le titane, on n'en manque pas. En termes de ressources, le titane, c'est bien, bien partout, et essentiellement sous la forme d'un minéral mixte de fer et de titane, qui est l'ilménite, on en trouve un petit peu partout. Par contre, on en trouve aussi chez nous. Il y a d'importantes réserves dans ce qu'on appelle les grès armoricains, donc en Bretagne et essentiellement dans la presqu'île du Cotentin, on a des gros gisements. Il est très difficile d'obtenir un concentré commercial à partir du titane qui est chez nous. Parce qu'un un concentré de rutile aujourd'hui, si on veut qu'il soit commercial, il faut qu'il contienne 95% de titane. Et nous, des essais avaient été faits par la BRGM dans les années 80, on avait du mal à dépasser 80%. Peut-être qu'aujourd'hui, si on s'y réintéresse, on saura gagner les 15 points qui manquent. Je n'en sais rien. C'est donc une filière à regarder, serait-on capable de... Par contre, est-ce que c'est le meilleur choix que de viser, encore une fois, le concentré commercial? Qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis 1980 dans le titane? Un, il y a maintenant un usage qui commence à devenir exponentiel sur l'impression 3D. Titane, ça coûte cher, mais lorsqu'on le met en poudre, on sait l'imprimer en imprimerie 3D, on ne fait pas de scrap, et c'est une technologie qui se développe à la vitesse grand V. Qui plus est, on sait aussi qu'il y a de nouveaux procédés pour traiter le titane. Le problème du titane, ce n'est pas les gisements, c'est les usines pour le transformer en ce qu'on appelle l'éponge de titane, qui sont toutes situées en Russie pour l'instant, en ce qui nous concerne, et qui emploient un procédé chimique qui est le procédé Kroll, où les usines sont, je dirais, extrêmement lourdes en termes d'investissement. Donc on voit qu'il existe aujourd'hui des alternatives. Voilà le fameux procédé Kroll, c'est celui qui produit le titane d'aujourd'hui, je dirais à 99,9% certainement. Mais il existe deux autres procédés qui ont été développés essentiellement au niveau de Cambridge. Enfin, un à partir d'une licence chinoise qui est le China Car Process, et un autre qui est un dérivé. On s'intéresse nous plus particulièrement à celui-là qui est déjà en, je dirais, sous licence et qui commence à produire. Voilà un minerai de grès armoricain. Alors, ce qui est en noir, apparaît en noir sur le caillou, c'est les graines de quartz du grès, simplement c'est la lumière qui est absorbée. Le rutile qui est là-dedans, c'est les petits lits un petit peu beiges qui sont là. Donc on le voit, c'est un minerai qui tient à peu près 15% de titane, qui est tout à fait acceptable comme bon minerai pour être broyé. Reste, peut-on avoir un concentré à peu près bon. Voilà les gisements. On peut aller derrière pour voir quelques types d'indices. Vous voyez par exemple celui de la glacerie, ça fait 10 km de long, ça fait à peu près 4 mètres de puissance sur le niveau minéralisé. Si on regarde 300 mètres d'approfondissement, on aurait environ 5,6 millions de tonnes de titane. On est vraiment sur des chiffres importants. On peut passer sur d'autres indices qui sont derrière. Voilà celui de Bayeul, par exemple, on retombe aussi sur des chiffres tout à fait raisonnables. Reste une inconnue, est-on capable de vraiment le traiter? Donc, voilà un peu l'historique, je dirais, du titane. Bon, mais on le découvre, je dirais, à la fin des années 1700. Le procédé Kroll, qui est toujours en vigueur, commence à fabriquer du titane pour ses usages industriels à partir de 1940. On teste plein de systèmes jusqu'à maintenant, et il n'y a qu'à partir de 2011 que la licence China Car commence à faire des productions de poudre. Donc on est en plein, je dirais maintenant, dans l'examen de cette technologie, parce que si... Voilà donc une technologie qui est faite en fait par une électrolyse en sel fondu. Donc on est dans un sel ici qui est un mélange de nacelle et KCL. On doit être à 700-800 degrés ou un poil au-dessus. Bref, on va avoir donc un dépôt de cristallites de titane qui sont déjà pratiquement calibrés pour les imprimantes 3D. C'est un procédé qui ne coûte pas très cher. À l'inverse du Kroll, je crois qu'il y a 5 dollars la livre à peu près de coût de fabrication sur une poudre qui en vaut 15. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc là, on voit que ça vaudra la peine d'aller explorer les grès armoricains. uniquement si ce procédé fonctionne bien et si on est capable de donner un concentré qui marche pour ça. Sachant qu'à ce niveau-là, on n'a plus besoin d'un concentré commercial à 95% titane. Un concentré qui en aurait 70 ou 80% serait largement suffisant. Donc, encore une fois, le pilotage probable de l'exploration et du choix des terrains à aller explorer va également dépendre de la capacité que l'on pourrait avoir à développer une filière industrielle avant, en simultané. Or, l'avantage, bien sûr, et si on passe par ce genre de système, il n'y a pas de rouge. On travaille de rutile, donc on travaille TiO2, il manque le fer. Bon, s'il n'y a pas le fer, il n'y a pas de rouge. Un des défauts du procédé Kroll avec, je dirais, l'usage généralisé de l'élimite, c'est qu'en queue, il faut se débarrasser des hydroxydes de fer qui traînent et on fait des rouges.
Une seule question, Joël Bach.
Merci. C'est une réflexion, pas seulement sur la dernière présentation, mais quand même, je vais m'y arrêter aussi, sur l'ensemble des présentations. Vous dites que les uns et les autres, que vous vous situez dans une dynamique de mine responsable. Ce que je constate, c'est que depuis ce matin, alors que tous ces procédés miniers comportent des risques extrêmement dangereux, qui ont tous été prouvés, nous n'avons pas une seule explication pratique sur la manière dont vous allez protéger et les travailleurs, et la population, et l'environnement contre ces risques. Je vais prendre le problème de la mine de Salo en Ariège. La scheelite, alors certes, je ne suis pas géologue, mais je suis chercheur sur les problèmes de santé et travail depuis 30 ans. J'ai travaillé avec un chercheur qui était spécialiste de la toxicité des fibres minérales, qui avait une formation de géochimie et qui savait absolument de quoi il parlait, c'est Henri Pesra. Il a travaillé sur la caractérisation de ce que contenait la scheelite, sachant que il y avait des mineurs atteints d'asbestose dans cette mine qui a fonctionné entre 1972 et 1986. Dans cette scheelite, il y a notamment deux variétés d'amiante de du type amphibole.
Je vais vous arrêter. Parce
non,
que
moi, si je vous demande, je vous demande de me laisser continuer.
Nous avons un thème, madame. La journée a été organisée sur des conférences, sur des thèmes. Je ne discute pas le bien fondé éventuel de ce que vous dites. Et ce n'était pas le thème de la journée. C'est pour ça que ça n'a pas été abordé dans ces conférences.
Maintenant,
je pense que M. Galin a eu une excellente idée. On abordera les problèmes globaux, notamment les problèmes éventuellement de contamination, de maladies professionnelles. Ce sera abordé cet après-midi, mais et en fin de journée. Mais le fait que les conférences ne l'aient pas abordé, c'est normal. Elles auraient été hors sujet. Donc,
ça n'aurait pas été hors sujet dans la mesure où on parle des minéraux présents à Salo. On peut aussi parler, l'actinolite et la trémolite, c'est des minéraux. Donc vous pouvez en parler aussi.
Oui, je suis minéraliste, je ne peux en parler forcément.
Voilà, mais parlez-en.
Oui, c'est ça, s'il vous plaît, on est tous d'accord, on saura vous répondre.
Non, vous êtes, on n'est pas tous d'accord, moi je ne le suis pas.
Non, vous avez le droit.
Voilà,
mais dites pas. On répondra à vos questions en fin de journée. L'essentiel, c'est qu'on puisse dialoguer et échanger. Je répondrai à votre question, madame. Maintenant, c'est le buffet, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez ressortir et puis je pense que je serai dirigé vers le buffet. Merci.